Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 76. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Il arrive que l'on fasse des belles rencontres. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cet épisode. On me demande souvent de faire un épisode sur Instagram, sauf que moi, je suis plutôt team LinkedIn. Instagram, je l'utilise un peu, mais uniquement d'un point de vue perso. Alors comme souvent quand j'ai besoin d'une experte, je regarde mon réseau et je vais chercher la personne qui me semble le mieux réussir sur le sujet. C'est exactement ce que j'ai fait et cette personne, c'est Aline Bartoli. Aline, elle est coach business et c'est aussi la créatrice du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et son réseau à elle, c'est Instagram. Elle compte près de 50 000 abonnés et son compte, il est clairement truffé de bons conseils business dispensés dans la bonne humeur. Du coup, j'ai demandé à Aline de venir nous parler d'Instagram et de ce qu'il faut qu'on fasse pour développer notre compte en 2021. Préparez-vous à un épisode plein d'énergie, de sourires et de décontraction, mais sortez quand même vos stylos parce que croyez-moi, Aline nous livre des pépites pour faire décoller votre compte Instagram. Allez, on accueille tout de suite Aline Bartoli. Alors bonjour Aline, bienvenue sur le podcast du marketing. Alors toi aussi, tu es podcasteuse puisque tu animes le très bon podcast « Je peux pas, j'ai business » et je suis vraiment très heureuse de pouvoir discuter avec toi parce qu'on a beau avoir des personnalités assez différentes, on a les mêmes références et puis des valeurs en commun, comme celle notamment de la bienveillance. Alors bienvenue à toi Aline sur le podcast du marketing.
Mais Estelle, en toute bienveillance, je suis ravie d'être là et merci à toi pour ton invitation parce que je peux déjà dire que c'est une très belle rencontre. Donc rien que pour ça, je suis contente de m'être déplacée, quoi. Enfin, entre guillemets.
Génial. Écoute, ravie également. Alors écoute, je vais commencer par le commencement, ce que je fais avec chaque invité pour chaque épisode. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, même si je pense que pas mal de gens dans mon audience probablement te connaissent déjà, mais pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, est-ce que t'accepterais de te présenter, de nous raconter qui tu es et ce que tu fais?
Yes, tout à fait. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'ai envie de dire, je m'appelle Aline et mon métier, c'est coach business. Donc, c'est un nom très large, j'en ai bien conscience, mais mon métier, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs dans la réalisation de leurs objectifs, que ce soit des objectifs de chiffre d'affaires, de stratégie, d'organisation, d'équilibre vie pro, vie perso, bref, de les accompagner dans leur développement. Et justement, c'est parce qu'il y a plein de choses à faire que je trouve que c'est un métier passionnant. Et je le fais via deux axes principaux. Il y a plein de trucs, mais il y a deux axes principaux. Le premier, c'est une création de contenu plus. Je crée énormément de contenu gratuit, dont le podcast « Je peux pas, j'ai business », qui est un petit peu mon contenu phare et chouchou, n'en déplaise à ma chaîne YouTube, et des programmes de formation en ligne avec mon gros programme, entre guillemets, signature sur 4 mois qui s'appelle la BSB Academy. Voilà.
Génial, bravo. Écoute, j'adore, mais clairement, on se ressemble beaucoup dans nos façons de travailler avec évidemment la création de contenu sur les podcasts et les formations. Donc, on se comprend très bien. Alors, aujourd'hui, Aline, je t'ai invitée pour nous parler d'un réseau social que tu maîtrises à la perfection. Il s'agit d'Instagram. Alors, Instagram, moi, je le connais surtout du côté perso. Je ne l'utilise pas dans mon activité professionnelle. Mais toi, en revanche, je crois bien que c'est ton réseau principal. Il me semble que tu as 40 000 personnes qui te suivent sur Instagram. C'est pas rien quand tu penses 40 000 personnes. Et puis, bien sûr, tu es super active dessus. Alors, Insta, c'est un réseau qui évolue très, très vite. Il se passe plein de choses dessus. Et puis, aujourd'hui, tu vas nous parler des 5 choses qu'on pourrait mettre en place pour développer son Instagram en 2021. Alors, j'ai hâte d'écouter tes bons conseils. Tu commencerais par quoi comme bon conseil à mettre en place en 2021?
Yes, alors, pour rendre à César ce qui est à César, on est actuellement à 39 000 abonnés sur Instagram.
Donc, on va être à 40 dans pas longtemps, je pense.
Je pense qu'on va être à 40 dans, 3 semaines max, tu vois, enfin, vu la courbe de croissance, mais j'aime bien quand les chiffres sont exacts, donc je me permets de rectifier pour pas
que... Écoute, à mon avis, le jour de la publication de cet épisode, tu seras à 40, je prends les paris.
Challenge accepted, tu sais. Effectivement, je suis très contente de pouvoir en parler, surtout que j'ai essayé vraiment d'avoir 5 astuces qu'on n'entend pas forcément de partout, qui sont des trucs plutôt applicables, on va dire, en ce moment, à la situation actuelle, plutôt que des conseils comme « il faut publier régulièrement », quoi, tu vois, enfin, le truc classique. En soi, on le sait. Donc, la première astuce que je pourrais donner, c'est d'utiliser absolument tous les formats qu'Instagram met à notre disposition. Donc aujourd'hui, créer du contenu sur Instagram, ça peut passer par plein de formats différents. Il y a les posts simples, donc les images ou les textes qu'on connaît tous. On a les carousels, qui sont ces fameux formats où tu peux un peu slider avec ton doigt, où tu as plusieurs, comme des diapositives.
Ouais.
Tu as le format vidéo. Donc le format vidéo, c'est des petites vidéos qui font une minute maximum, qui apparaissent sur ton fil d'actualité. Tu as les IGTV, où là, c'est des formats vidéo qui peuvent être plus longs, qui peuvent aller jusqu'à... Alors, ça dépend du nombre d'abonnés, mais ça peut aller jusqu'à une heure ou des choses comme ça. Tu as les formats des lives, où tu peux être en direct avec possibilité de l'enregistrer après. Et tu as aussi le tout nouveau format, enfin tout nouveau qui date d'il y a presque un an maintenant, mais qui sont les Reels ou réels. Chacun prononce ça comme il veut. Moi, je suis de la team Reels, qui est directement inspirée de TikTok. Et tu as les fameuses stories.
Et alors attends, excuse-moi, je te coupe parce que j'ai une question avec ces histoires de différents formats. Tu vois, j'avais même pas réalisé, je sais qu'il y en a plein, mais j'avais même pas réalisé qu'il y en avait autant. Donc effectivement, ça fait quand même une jolie panoplie. Comment tu gères tes publications entre tous ces différents formats? Est-ce que tu fais peut-être, je sais pas, 80% de posts et puis 20% de tout le reste? Comment tu t'organises?
Ok, alors là, il y a la théorie et la pratique. La théorie dit que forcément, sur une plateforme, plus tu vas utiliser les formats qui sont à ta disposition sur la plateforme, plus la plateforme va mettre en avant d'un point de vue algorithmique parce qu'elle aime le fait que tu exploites tout le potentiel. Donc ça, c'est la théorie. Mais en pratique, évidemment, on va pas se dire « alors il faut que je publie un Reels par semaine, 3 posts par semaine, 2 carousels par semaine, 3 vidéos par semaine, un live par semaine ». Enfin, là, on s'en sort plus, quoi. Ouais. Et donc là, mon conseil numéro 1, c'est vraiment de nous choisir les formats qui nous plaisent et dans lesquels on se sent le plus à l'aise. Et de voir également les formats qui résonnent le plus avec notre audience. Si je devais caricaturer un petit peu, il y a des audiences qui préféreront les slides, où ils peuvent slider, avoir plein d'informations. Et il y a des audiences parfois plus jeunes qui préféreront des formats comme les Reels, les Reels, parce qu'ils auront cette éducation TikTok, etc.
Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. J'ai mon téléphone qui sonne en même temps, même si je l'ai éteint, c'est fou quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un moment donné, il faut quand même rester sur faire ce qu'on aime, c'est-à-dire que ça reste du réseau social, donc on se montre un petit peu, même si moi je dis toujours qu'on montre bien que ce qu'on veut, hein, mais on se montre quand même nous-mêmes. Et si tu n'aimes pas ce que tu es en train de faire, si vraiment, je sais pas, tu es complètement flippé devant la caméra de te faire filmer, c'est l'angoisse. Et à un moment donné, c'est bien d'essayer quand même, c'est pas la question, mais il y a un moment donné, tu vas te faire souffrir si tu te dis que 3 fois par semaine, il faut que tu sortes une story. Donc peut-être que, enfin une story ou une vidéo, donc peut-être qu'effectivement, il faut quand même aussi regarder ce qu'on aime faire et on se donner le droit de ne pas tout faire. Mais donc, ce que tu disais, c'est que l'algorithme, il aime que tu utilises toute la panoplie d'offres qui te propose, c'est ça hein?
Et de la même manière que n'importe quel réseau social, n'importe quelle plateforme va privilégier les utilisateurs qui utilisent toute cette panoplie. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, aujourd'hui, les Reels, les réels, c'est le format à la mode parce que Instagram est là pour concurrencer TikTok et donc Instagram pousse à fond, pousse à fond les utilisateurs qui utilisent les Reels d'un point de vue algorithmique. Mais en plus, comme c'est quelque chose de nouveau que tout le monde n'a pas encore adopté, il y a beaucoup plus de chances d'être visible. Je le sais, j'ai envie d'en faire, mais j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas ma priorité dans mon business. Je dois publier un Reels par mois et encore, mais ça m'empêche pas de grossir sur Instagram, même si les gens disent qu'il faudrait en publier un par jour, quoi, tu vois.
Ouais, mais donc, je suis d'accord.
Pour mettre un petit, voilà.
Mais oui, mais et puis on peut pas être partout. Enfin, c'est bien joli aussi d'avoir la théorie, mais la pratique, c'est quand même, on a un métier.
Donc, exactement,
faut faire des choses.
Donc voilà, c'est ayez connaissance de la théorie, mais en pratique, c'est les formats qui nous plaisent parce que la régularité et la persévérance restent quand même les deux facteurs numéro 1 et 2 de la réussite sur les réseaux, quoi.
Cool, j'adore. Super, donc première chose, essayez d'utiliser un maximum de formats qui sont disponibles. Deuxième tips que tu pourrais nous donner, c'est autour de certains types de contenus. Est-ce que tu peux nous raconter un peu?
Oui, alors là aussi, on va hacker un petit peu l'algorithme d'Instagram qui, en 2020 et en 2021, encore aujourd'hui, va privilégier les contenus, ce qu'on dit les contenus. Alors, excusez-moi pour les anglicismes, hein, j'espère que ton audience n'est pas allergique à ça.
Non, moi, mais j'adore les anglicismes.
Les contenus shareable et savable, c'est-à-dire les contenus qui sont à fort potentiel de repartage et les contenus qui sont à fort potentiel d'enregistrement. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont, entre guillemets, assez récentes sur Instagram vs les fonctionnalités historiques qui sont le like et le commentaire. Avant, un post avec plein de likes était mis en avant par l'algorithme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'algorithme va regarder le nombre d'enregistrements d'un post et le nombre de partages. Donc, c'est si on a cliqué sur la petite icône avion ou sur la petite icône avec le drapeau à droite sous un post pour l'enregistrer et le sauvegarder pour plus tard. Et en fait, le fait que les utilisateurs font ça sous nos posts envoie un message à l'algorithme d'Instagram en mode ce contenu est tellement précieux et tellement à forte valeur ajoutée que la personne, elle l'a même enregistré pour y revenir plus tard. Et donc, je vais le proposer à plus de monde. Ouais. Ou alors, la personne a partagé, etc. Et ça renvoie le même type de message.
Ouais, c'est un raisonnement effectivement assez logique. Tu vois, j'avais même pas en tête qu'il y avait ces fonctionnalités-là sur Instagram. Mais c'est pour te dire que j'utilise Instagram énormément.
Vous allez faire une grande professionnelle, mesdames et messieurs.
Oui, complètement. Mais effectivement, en tout cas, ça semble complètement logique. C'est-à-dire que si, c'est ce que tu dis, si je lis un post, le post, je le trouve vraiment super intéressant. Je veux pouvoir le retrouver et on sait bien comment ça se passe. Hein. Quand tu scrolles, si tu le laisses partir, c'est fini. Tu le revois plus parce qu'il est perdu dans les dédales d'Instagram. Effectivement, si tu veux absolument les dédales, tu imagines les dédales d'Instagram.
Je trouve la métaphore est totalement juste.
Mais effectivement, si tu as envie de l'enregistrer, de le garder pour toi, c'est que tu trouves que c'est intéressant. Et quand même, ce qu'il faut bien comprendre dans les algorithmes de tous les réseaux sociaux, ce que l'algorithme essaye de comprendre, c'est qu'est-ce qui va intéresser l'audience. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que l'audience reste le plus longtemps possible sur le réseau. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils vendent de la pub sur le réseau, donc exactement. Il faut que tu sois là. Donc, tout ce qui va faire qu'on va inciter les gens à rester plus longtemps ou intéresser les gens, en l'occurrence, pour qu'ils restent plus longtemps, évidemment, ça va être vu de façon positive par le réseau social. Donc, shareable et savable. Bon, je vais aller regarder sur Instagram les petits boutons que j'ai pas vu passer. C'est les mises à jour que j'ai pas faites. Je pense que c'est ça.
Moi, ça fait longtemps que t'as pas fait mise à jour.
Alors. C'est possible.
Oh, ça roule un peu. Et pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on disait sur les différents formats, c'est pour ça que, par exemple, un format comme les carousels avec les fameuses slides ne sont pas du tout à jeter à la poubelle parce que c'est des formats où on peut mettre plein d'informations et généralement des formats qui sont très enregistrés.
Ah ouais, et accessoirement des formats où tu passes un petit peu de temps, parce que le temps de passer d'un slide à l'autre, nécessairement, ce qu'on appelle le dwell time, le fameux dwell time, le temps que tu passes, c'est nécessairement, tu passes pas mal de temps à regarder tes petites photos. Super.
Tout à fait.
Top, top, top. Génial. Troisième tips, qu'est-ce que tu voulais nous proposer ?
Exactement. Troisième tip, ça, c'est pas un tip d'algorithme, c'est plus un tip de la société, la tendance, l'univers, l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui, qui est de faire rentrer un petit peu de perso dans le professionnel. C'est-à-dire que, mais ça, je pense que c'est valable sur n'importe quel réseau social. Hein. Aujourd'hui, c'est fini cette frontière entre le pro et le perso de manière très hermétique, etc. Et ça est quelque chose qui a été accéléré par les confinements où on s'est tous retrouvés à travailler avec une chemise en haut et un bas de pyjama en télétravail, en Zoom avec tous les collègues. Bref, aujourd'hui, les deux sont un peu rentrés en collision. La frontière est devenue poreuse et les gens sont demandeurs de savoir ce qui se passe dans le perso, mais entre gros guillemets, c'est-à-dire dans les coulisses, dans les backstage. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en train de poster des posts super léchés sur notre expertise, sur nos produits, sur notre entreprise, etc. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle, alors les gens n'aiment pas trop quand je dis ça parce que c'est assez péjoratif comme terme, mais j'appelle ça le faux perso. C'est qu'on peut choisir quels aspects de notre vie personnelle on fait rentrer ou non dans notre vie professionnelle. Donc évidemment, si on n'a pas envie de montrer ses enfants, si on n'a pas envie de montrer nous, notre tête pas maquillée, ou si on n'a pas envie de montrer, je ne sais pas, notre vie personnelle, amoureuse, on n'est pas obligé de le faire. Mais c'est bien aussi d'avoir un peu tout ce côté storytelling, coulisses, partage d'anecdotes, partage d'expériences, partage de notre parcours, des choses comme ça. Et plus il y a de détails, plus les gens sont friands. Et là, forcément, ça nous vient aussi un petit peu de la télé-réalité où on a tous ce côté un peu voyeur, on aime savoir ce qui se passe dans les coulisses, etc. Donc, c'est toujours très, très intéressant de jouer là-dessus.
Mais il ne faut pas oublier que ce sont des réseaux sociaux, en fait. La première idée, même si on s'en sert pour nos entreprises, pour parler de nos expertises, pour vendre nos produits. Enfin, on est sur un réseau social et le principe du réseau social, eh ben, c'est d'avoir des interactions sociales et donc de parler de nos personnes, de qui on est. Après, je te rejoins complètement. Moi, je suis, alors moi, je suis maman et je suis très, très, très protectrice de l'intégrité de mes enfants, bien sûr. Mais ça n'empêche que, encore une fois, tu dis vraiment ce que tu veux dire. Donc, tu vois, typiquement, pour prendre l'exemple de moi et mes enfants, où je fais extrêmement attention, j'en parle assez rarement, j'en parle un petit peu. Je vais peut-être donner leur prénom et je vais peut-être donner leur âge. Et puis, ça s'arrête là. Mais ne serait-ce que le fait, tu vois, par exemple, même sur le podcast, c'est pas que sur Instagram. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un conseil qui vaut sur plein d'autres médias. J'allais dire réseaux sociaux, mais même d'autres médias. Rien que le fait de donner des petits éléments, déjà, ça intéresse les gens parce qu'ils ont l'impression peut-être de mieux te connaître en tant que personne. Mm-hmm. Et on est évidemment qui on est en tant que personnalité professionnelle, mais tu le disais, il n'y a pas une différence entre la personnalité professionnelle et la personnalité et la personne qu'on est. Ça en fait partie, même si on a certainement, allez, un vernis supplémentaire. On fait peut-être plus attention à la façon dont on, je sais pas, dont on parle parfois ou dont on, je sais pas, dans nos attitudes. Mais il n'empêche que tu restes Aline, moi je reste Estelle, et bien sûr que quand on travaille, et ben on travaille avec nos personnalités. Donc effectivement, je pense que c'est important de savoir mettre un peu de perso, même si on est frileux. Il y a plein de façons de mettre du perso. Et j'aime beaucoup ton idée de faux perso à la rigueur. Et ça veut dire quoi, faux perso? Ça veut dire que tu as le droit de t'inventer aussi quelques trucs qui ne sont pas tout à fait la réalité? Comment tu le gères?
Non, justement, c'est pour ça que c'est pas, peut-être pas le bon terme, mais comme c'est le premier qui m'était venu en tête, c'est évidemment l'idée, c'est de pas s'inventer une vie ni de mentir, mais juste de choisir qu'est-ce qu'on révèle et qu'est-ce qu'on ne révèle pas. Et si je me prends moi comme exemple, quelqu'un qui est dans mon audience te dira « Non, mais Estelle, Aline, elle partage toute sa vie sur les réseaux sociaux. » Et en fait, non, j'ai des limites qui sont très claires. Ma vie amoureuse et ma vie sociale avec mes amis n'est jamais partagée sur les réseaux. Jamais tu me verras en train de faire la fête, en train de boire, en train de danser sur les tables des bars ou les choses comme ça. Par contre, tu me verras en train de faire la cuisine, de faire mon café, de me faire livrer un colis, des choses comme ça. Donc en fait, le faux perso, c'est plutôt de donner cette sensation aux gens qui sont dans ta vie personnelle, au degré qui te convient bien. Donc moi, c'est quand même beaucoup, mais tout le monde n'est pas obligé d'être à ce niveau-là, mais en ayant quand même des limites extrêmement claires.
Oui, en fait, je crois que le secret, c'est ça. C'est de savoir vraiment, avec soi-même, très clairement, fixer les limites. C'est de ne pas y aller en improvisation. C'est quand même de se dire dès le début, ben, là, je veux bien aller jusqu'à ça, et en revanche, je n'irai pas à ce niveau-là. Et d'être clair avec soi-même, finalement, c'est ça le truc.
Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise règle. Tu parlais de tes enfants. Il y a des personnes qui montrent leurs enfants.
Ah oui,
et ça vrai. Marche très bien pour eux et c'est très bien. Et il y a des personnes qui font le choix de ne absolument pas les montrer et c'est très bien aussi. Donc, c'est juste nous, où est-ce qu'on met notre curseur de faux perso.
Génial, j'adore, j'aime beaucoup ça. Ok, super. Donc, on fait attention à ça. On se pose en tout cas la question en amont. Je pense que c'est ça, le réflexe important, c'est de bien se poser les bonnes questions en amont pour pouvoir savoir où on va. Ok, super. Ton quatrième tip sur Instagram, tu vas nous parler de société.
Eh bien, ça fait la transition parfaite avec ce qu'on a un petit peu dit, ce que j'ai commencé à aborder avec le confinement, etc. C'est qu'on vit quand même dans une société et notre utilisation des réseaux sociaux reflète aussi la société dans laquelle nous vivons. Et en étant hyper attentif à de quoi les gens ont envie, de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce qui se passe de leur côté, on arrive aussi à voir un petit peu les contenus qui leur plaît. Et là, typiquement, on est... J'espère, je touche du bois, à l'aube de la sortie d'une pandémie où on a tous été, pour le dire au bas mot, chamboulés dans nos fonctionnements, etc. On observe deux choses, deux phénomènes sociétaux hyper, hyper importants. C'est un, le besoin de s'évader, de rigoler, de se déconnecter un petit peu de la réalité qui n'est pas toujours très rose. Et donc, c'est pour ça que tous les contenus hyper humoristiques cartonnent en ce moment, mais quels que soient les réseaux sociaux, hein, pas que Instagram, mais on a vu une remontée fulgurante de ce qu'on appelle les mèmes, donc ces petites images tirées de la culture populaire sur lesquelles on met des textes rigolos, etc. On voit aussi des contenus beaucoup plus frivoles, beaucoup moins sérieux qui cartonnent aussi. Ça explique également le succès de TikTok, avec où c'est on danse, on rigole, on fait des trucs qu'on ne se prend pas au sérieux, on se met dans des situations rigolotes, mais parce que les gens ont besoin de rire. Et la deuxième conséquence aussi de cette société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est ce besoin de nostalgie, cette envie de se réfugier dans le « c'était mieux avant ». Et donc pareil, tous les posts et tous les contenus qui font référence à les années 90, 80, ou voire même 2019, quand on n'était pas encore là-dedans, tu vois, 2019, il y a 10 ans. Et bien ça fonctionne super bien parce qu'on se réfugie dans ce qu'on connaît, ce qui était mieux, le sécuritaire, etc. Donc, l'humour, la nostalgie, c'est deux tendances extrêmement fortes et très porteuses pour les postes. Et pour concrétiser un petit peu tout ça, comment est-ce que nous, on peut l'utiliser dans nos business? Ben, par exemple, moi, je pourrais imaginer faire un post autour de « Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où il y avait MSN et les Wiz et les trucs comme ça ?» et vraiment faire appel à cet imaginaire collectif qu'on avait avant ou faire rentrer plus d'humour dans… Pas moi plus, parce que plus que ça, ce serait bizarre.
Mais... déjà pas mal.
Voilà, mais les personnes pourraient mettre un petit peu plus d'humour. Qu'est-ce que je voyais hier? Je voyais la marque Innocent avec les jus de fruits, bon, qui ont déjà un petit peu d'humour de base, mais ils viennent d'arriver sur TikTok et ils le font extrêmement bien. Enfin, c'est un vrai modèle de marketing sur TikTok. Enfin, il y a plein, plein de choses à faire avec ça.
Ouais, puis en plus, c'est des notions intéressantes, je trouve, à utiliser. L'humour, alors il faut faire toujours attention avec l'humour, c'est toujours un savant dosage à trouver, mais c'est quand même plutôt pas désagréable, tu vois, fondamentalement, de rajouter un peu d'humour dans son quotidien.
J'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise « j'aime pas rigoler ».
C'est ça,
je déteste rire.
C'est horrible, je n'aime pas rire. Donc oui, effectivement, c'est bien. Et j'aime bien le côté nostalgie, mais au sens cocooning, en fait, c'est un peu ça, c'est je te file une petite piqûre de rappel. Là, j'ai vu que t'as Friends qui va sortir une redite. Bon, bah, typiquement, tout le monde saute dessus parce que c'est pas tant Friends qu'on vient chercher, c'est le souvenir de quand on regardait Friends à l'époque. Et il y a un côté très, c'est confortable, quoi. C'est sympa, ça nous rappelle des bons moments. Super. Donc, on peut mettre ça effectivement en place. Et en fait, ce que tu dis, ça, c'est pour tout de suite. Mais fondamentalement, il faut être super à l'écoute de la société et de ce qui se passe pour comprendre ce dont les gens, de façon très, très générale et très macro, ont besoin et de leur donner dans le réseau social. Encore une fois, le réseau social, c'est du social. Donc, il faut faire attention aux gens, tout simplement.
Et c'est aussi, comme c'est social, c'est le reflet d'une société.
Exactement, super. Et ton cinquième tips, on en arrive déjà au cinquième, tu vois les choses, le temps passe vite avec toi Aline. Quand on arrive au cinquième, là tu voulais nous parler du fait qu'il n'y a pas que poster, si je comprends bien, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus?
Oui, tout à fait. Et là, je fais appel à tous ceux dans l'audience qui peuvent se dire « Oui, mais Instagram, il fallait se lancer il y a 3 ans, sinon aujourd'hui, c'est bouché. » Et là, je ne vise absolument personne en disant ça, n'est-ce pas, tu
vois. On en a parlé juste avant, c'est ce que je lui ai dit.
Toute ressemblance entre une personne ayant existé ou existant serait purement fortuite, tu sais. C'est vrai qu'on pourrait se dire que se lancer aujourd'hui sur Instagram ou sur Facebook ou même sur LinkedIn, c'est un petit peu, c'est trop compliqué parce qu'il y a déjà trop de monde, il fallait le faire avant, aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Alors c'est vrai qu'il y a plus de monde qu'avant et que c'est moins facile qu'avant de percer, mais ça reste totalement possible à une seule condition, et ça c'est ma cinquième astuce, c'est d'être actif dans le développement de son compte et de sa communauté. C'est-à-dire que ça ne suffit plus de poster, de faire des petits groupes de hashtags et d'attendre que les gens te découvrent en venant chouiner après en disant « personne a liké mon post » et tout. Il va falloir être un petit peu plus proactif que ça. Et comment ça se traduit? C'est aller liker et commenter chez les posts des autres. Et moi, c'est la technique que j'ai utilisée pour développer mon compte Instagram jusqu'à à peu près 7000 abonnés. C'est que tous les jours, je mettais mon minuteur sur 20 minutes et que j'allais m'engager sur des comptes qui ne me suivaient pas encore. Donc, j'allais liker, commenter leurs posts, laisser des commentaires et puis pas des commentaires en mode « viens t'abonner chez moi », pas du tout, mais vraiment en réaction à ce qu'ils postaient. Et du coup, qu'est-ce qui se passait quand les gens voyaient que The Beboost, ils ne savaient pas qui c'était, a liké 3 posts et a laissé 2 commentaires, bah, ils me répondaient, mais ils disaient « mais qui est The Beboost ?» Donc, ils cliquent, ils atterrissent sur mon profil et là, ils se disent bah, « j'aime ou j'aime pas » et en fonction de ça, ils s'abonnaient. Et en fait, du coup, le fait d'être proactif et d'aller chez les autres, d'aller ce que j'appelle chercher les abonnés par la peau des fesses, ça aide à développer le compte. Et puis après, une fois que la mayonnaise a pris au niveau de l'algorithme et qu'on commence à avoir une bonne visibilité, à tomber dans les suggestions d'Instagram de l'algorithme, après la machine est lancée.
Ouais, ça roule tout seul. Mais en même temps, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire qu'on ne reste pas que sur son propre réseau, ou que même peut-être son réseau, le réseau de son réseau, d'aller chercher un poil, un cran plus loin, et d'aller proactivement attiser la curiosité, en fait, c'est ça, hein, quand tu viens liker et raconter des choses. Alors, t'essayes de raconter des choses qui font du sens avec le contenu, et pas juste un like pour un like, quoi. Mais dès lors que tu vas aller chercher des gens qui sont un petit peu plus loin, l'algorithme va se dire... si tu as 2, 3, 4 crans de la personne et que cette personne est intéressée et vient de voir, bah, c'est quand même qu'il y a un truc qui est intéressant chez toi. Encore une fois, c'est toute histoire de est-ce que ce que raconte cette personne est intéressant ou pas. Et si effectivement les gens sont plus loin de toi et qu'ils viennent quand même, bah, c'est que c'est intéressant. Donc ça peut créer une espèce moi j'appelle ça la boule de neige, mais créer une espèce de, d'engagement qui pour l'algorithme est plutôt, plutôt très bien vu. Et puis en plus de ça, accessoirement, tu vas chercher par la peau des fesses, comme tu dis, des nouveaux followers, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'en tout cas, il faut faire le taf au moins au début. Après, il y a un moment donné où, je dis pas qu'il faut s'arrêter et que je pense que sur les réseaux sociaux, tu as toujours à travailler, et je le dis d'ailleurs, hein, les réseaux sociaux, la plupart des gens, moi, avec qui je travaille, me disent « Oh, mais oui, mais les réseaux sociaux, c'est facile parce que je sais le faire, je le fais dans ma vie quotidienne. » Les réseaux sociaux, c'est un vrai boulot, hein, si on veut monter un réseau social et le faire bien. Donc, croyez pas que ça se fait tout seul, et croyez pas que si Aline a 40 000 personnes sur Instagram, ils sont venus tout seuls. Je pense que clairement, il y en a un certain nombre que tu es allé chercher par la peau des fesses.
Et puis, au début, j'étais beaucoup par la peau des fesses. Puis après, on va dire que à partir des 7000 abonnés, c'est un autre type de stratégie qui a pris tout naturellement le dessus, qui est la stratégie de visibilité, comme toi et moi on est en train de faire en fait avec notre interview. C'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui ne me connaissaient pas, qui vont se dire qui est cette personne qui dit qu'elle a 40 000 abonnés sur Insta, qui vont venir voir mon Insta, puis si ça les intéresse, vont s'abonner. Donc quelque part, c'est aussi une stratégie pour faire connaître mon compte, où on est plutôt cross-canal.
Moi je sais pas, comme tu veux.
Bref, on a mixé les canaux. Mais ça reste de la visibilité, ça reste des actions de ma part. Mais comme tu disais, c'est un réseau social avant tout. On en revient toujours à la même chose. Donc, on va essayer d'être en connexion et avec les autres et d'aller s'engager avec eux.
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur le cross-canal, cross-canaux. Et j'ai envie presque de conclure là-dessus. C'est que les réseaux sociaux, tu le disais, c'est social, c'est sociétal. Ça englobe tout le monde. On est tous et professionnels et personnels, enfin des individus à la fois. On utilise tous en général plusieurs réseaux sociaux, plusieurs médias. On va regarder la télé, on va écouter des podcasts, on va lire des blogs, il y a énormément de choses. Donc en fait, il ne faut peut-être pas non plus rester sur un seul réseau social et les travailler de façon complètement indépendante, mais on peut tout à fait utiliser l'ensemble de nos opportunités de communication pour construire notre marque, que ce soit une marque individuelle ou une marque globale de marque, peu importe, le cross-canal, c'est la vie, j'ai envie de dire.
C'est une nouvelle manière de faire du marketing. Et si toi, Estelle, tu voulais, je ne sais pas, je dis au hasard, lancer un compte Instagram professionnel pour le podcast du marketing, tu pourrais très bien imaginer pendant plusieurs épisodes de podcast, pendant plusieurs mois, à la fin ou au début de chaque épisode, dire « Eh, au fait, n'oubliez pas qu'il y a un nouveau compte Instagram et pouf, qu'est-ce que tu fais ? T'envoies ton audience du podcast sur ton Instagram et tu n'es pas juste enfermé dans l'algorithme Instagram, quoi.
Bien sûr, super. Écoute, merci beaucoup, Aline, de tous tes bons conseils. Je vais aller mettre ça en place. Je ne te promets pas de lancer un Instagram tout de suite. J'ai 2-3 trucs à faire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je sais qu'il y a plein de gens, en tout cas dans mon audience, je le sais parce qu'ils me l'ont demandé. Donc, il y a plein de gens qui vont adorer cet épisode. Merci du fond du cœur, Aline, d'être venue sur le podcast du marketing.
Mais avec plaisir, Estelle. Merci pour ton invitation. Et puis, j'ai adoré notre échange.
Super.
Merci tout le monde.
Ciao, ciao.
Bye.
On arrive à la fin de cet épisode et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez toutes les semaines un reminder à la sortie du nouvel épisode. Et puis, je vous partage aussi les outils que j'utilise et qui me facilitent la vie au quotidien. Et puis, en bonus, je donne accès à tous les cadeaux bonus du podcast. Pour recevoir la newsletter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.